Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Déjà, je voulais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2022. J'ai hâte de passer cette nouvelle année avec vous pour la quatrième saison d'In Power, car oui, on célébrera en mars déjà les 4 ans du podcast. Et d'ailleurs, si vous appréciez écouter In Power, j'ai lancé un tout nouveau format sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Entourage, où je reçois plusieurs invités pour échanger et débattre autour de sujets de société. C'est un peu comme un podcast, mais à plusieurs voix, que vous pouvez écouter avec ou sans images. Donc je vous invite à aller voir le premier épisode qui est disponible sur ma chaîne YouTube My Better Self et à me partager vos retours. Pour passer à l'épisode d'In Power de la semaine, on va commencer l'année avec le sourire, car je reçois un rayon de soleil ambulant que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux, juste inaccessible. Justine est une jeune femme pleine d'énergie et d'humour qui a commencé à partager des vidéos sur TikTok avant de se lancer sur Instagram et YouTube. Son mot d'ordre, bienveillance, positivité et autodérision pour faire des réseaux sociaux un espace où on se sent bien. Vous allez le voir dans cet épisode, le parcours de Justine est assez éclectique. Ayant beaucoup voyagé étant enfant, Justine connaît assez vite une ouverture sur le monde et a du mal à s'intégrer avec les gens de son âge. En essayant de rentrer dans le moule, Justine n'a jamais trouvé sa place et c'est en acceptant d'en sortir et de créer sa voie qu'elle finit par la trouver. Je pense que cette conversation pourra résonner auprès de beaucoup d'entre vous. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute. Bonjour Justine.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur In Power.
Merci.
Je suis ravie, ça fait longtemps qu'on parle de faire ce podcast.
C'est vrai.
Mais comme tu n'étais pas à Paris, bon de toute façon, ne spoilons rien de ta vie, de tout ça. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Eh ben bonjour, bonjour, moi c'est Justine, j'ai 22 ans, on me connaît aussi sous le nom de Justine Accessible sur TikTok, Instagram et YouTube, où je crée du contenu, comment dirais-je, c'est très difficile à définir le contenu que je crée, parce que sur Instagram ça va être plus, je vais essayer de décomplexer les personnes qui me suivent, etc. Et sur TikTok, c'est du contenu beaucoup plus fun, beaucoup plus humoristique et tout. Donc j'essaie un peu de tout mélanger, mais en gros, ouais, c'est ça, je crée du contenu fun, ouais. Décomplexant. Et surtout, on s'en fiche un peu quoi, de tout.
Non, mais c'est voilà. Vrai que bon, de toute façon, les personnes verront très bien par ton contenu ce que tu veux dire. Comment t'en as été amené à partager sur les réseaux? Parce que je sais que t'as pas commencé forcément par là. Et j'aimerais qu'on revienne, c'est quoi, on va même commencer par ton enfance. Parce que pourquoi t'as un peu ton histoire personnelle, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc peux-tu nous raconter qui était la petite Justine à 8 ans?
La petite Justine à 8 ans, elle est en CE2. Elle voyage beaucoup avec ses parents dans la France, dans le monde. Je sais, à 8 ans par exemple, j'ai fait un grand voyage au Brésil avec ma famille. Où on a fait toute la côte du nord-est du Brésil. Donc à l'école, j'étais pas forcément la plus appréciée, j'étais pas tout le temps là. Quand je revenais de mes voyages, des fois j'ai une anecdote où je rentrais du Brésil et j'avais voulu partager à ma classe mon voyage. Je leur avais fait goûter du jus de noix de cajou. Donc au Brésil, ça se consomme. Et tout le monde avait trouvé ça dégoûtant et tout le monde m'avait traité de papouasienne, donc rien à voir. Mais j'ai eu un peu cette étiquette de sauvageonne pendant toute ma primaire. Et ensuite, du coup, collège, là, ça a été très complexe, comme tout le monde. Je pense vraiment tout le monde galère au collège. Il n'y a pas eu de trucs très positifs pendant le collège.
Qu'est-ce qui a fait que tu voyageais autant? En fait, tu voyageais même pendant l'année scolaire?
Des fois, on voyageait pendant l'année scolaire. En fait, ma mère est chef d'entreprise. Elle a une école de langue. Ouais. Et du coup, elle va chercher des clients à droite, à gauche, un peu partout dans le monde. Mon père était père au foyer. Donc, s'occuper de mon frère et moi à la maison pendant que ma mère partait justement dans ses grands voyages. Et des fois, elle nous prenait avec nous dans ses valises et on partait... Donc on a fait l'Indonésie, on a fait le Brésil, vraiment tout plein de pays de fous. Ouais. Donc j'ai beaucoup, beaucoup bougé.
Ouais. Et t'as vécu ça comment? Parce que je me rends pas compte en fait ce que c'est
pour une enfant ouais, de 6, 7, 8 ans de bouger de pays en pays. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture. Est-ce que tu avais conscience de tout ça? Est-ce que toi, tu voyais juste ça comme quelque chose de marrant ou tu as eu parfois des difficultés d'intégration de...
Non, moi, j'ai vraiment toujours vécu ça comme, comme une enfant, quoi. En mode, c'est trop cool, on loupe l'école, on va en voyage, ouais. On va se baigner alors que nos copains, ils sont... sur les bancs de l'école, et moi, c'était mon père qui me faisait du coup les cours sur des petites îles au Brésil pendant que ma mère était dans les grandes villes brésiliennes à travailler. Donc ça, on a fait ça et franchement, non, c'était vraiment comme une enfant, quoi.
Ouais.
Et pas de...
Ouais. Et est-ce que c'est au collège que tu t'es rendu compte de la différence ou...
Ouais, au collège, je me suis rendu compte que du coup, avec ces expériences, ces voyages et tout, j'avais peut-être grandi un peu plus vite que les autres. Et du coup, je suis arrivée et j'étais déjà pas trop en phase avec les gens. Que ce soit physiquement, j'étais un peu plus développée aussi que la moyenne. Et du coup, intellectuellement et tout, j'étais beaucoup plus ouverte. Je parlais très fort. J'avais pas trop de filtres, en fait, ouais. Même en cours. Je parlais beaucoup et très fort. Et ouais. On le faisait remarquer. Il y a des profs qui détestaient ça, que je me lève, par exemple, en cours. Ou que j'avais des règles et des normes sociales... Je les connaissais, et d'un autre côté, j'étais quand même pas totalement en phase.
Bah, en fait, je trouve ça fait sens, tu vois, parce que si jamais t'as voyagé dans beaucoup de pays, en fait, tu te rends compte que les normes sont vachement des constructions sociales, qu'elles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, en fait, je pense que, inconsciemment, ton cerveau s'est dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. Ces espèces de règles qu'on nous impose, enfin, certaines ont bien sûr du sens, mais d'autres sont vraiment plus là pour... par pure convention, par pure habitude, par habitus, tu vois. Et toi, je pense que, voilà, d'un pays à un autre, enfin, j'imagine qu'au Brésil, c'est pas du tout le même rapport aux autres, c'est pas du
pas
tout...
Du tout. Mais du coup, je suis quand même très vite rentrée dans les normes. Hein. J'ai quand même, depuis toujours, ce sentiment et cette volonté, et je pense qu'il va me guider toute ma vie, et c'est un truc sur lequel il va falloir que je travaille toute ma vie, c'est de plaire à tout le monde.
Ah ouais, t'as ce truc.
J'ai cette grosse pression d'essayer de plaire aux autres constamment, et du coup dès le collège, genre quand j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, j'ai très vite redressé le tir. Je m'adapte en fait très facilement, voire trop. Je m'adapte un peu trop.
Ouais.
Donc du coup des fois je fais tout pour rentrer dans le moule, et au collège ça m'a pas du tout porté, ça m'a porté préjudice en fait.
Ouais.
Dans le sens où du coup on s'est moqué de moi parce que j'essayais d'être quelqu'un, j'essayais d'être comme ces nanas un peu populaires au collège et tout, et tout le monde me regardait en mode mais toi pas du tout, toi t'es pas comme ça, toi t'es machin, voilà.
Et c'est pas un truc dont t'as réussi à te détacher au lycée ou un peu après
Le truc de plaire à tout le monde, c'est toujours une volonté très 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 profonde.
Au final je pense qu'il est commune à tellement de personnes et qui est exacerbée par les réseaux sociaux au final, c'est accepter de déplaire. Et je crois que c'est Leila Slimani qui le dit dans Femme puissante, que pour elle, la définition de la puissance, c'est accepter de déplaire.
Tu
trouvais ça hyper puissant. Dans l'absolu, c'est vrai que tu te libères de vachement de choses quand on abandonne ça, quoi.
C'est trop dur, c'est trop dur.
Ouais. Et alors, si on vient après à ton lycée, tu décides de faire quoi dans ce moule où t'essayes de rentrer, mais où tu sens que t'as quand même pas la place la plus évidente?
On est vraiment à la fin du collège. Je pars aux États-Unis, donc toute seule pour la première fois, dans une famille. Et je vais y rester quand même tout un été. À la fin du coup de mon année de quatrième, avant la troisième. Et là, je me rends compte en fait qu'en étant loin de toute cette négativité, de ces gens à qui j'essayais de plaire, je savais pas trop pourquoi au fond... en fait, ils n'étaient pas là. J'étais très loin de tout ça et ça se passait très bien. Et c'est là justement que j'ai découvert les réseaux sociaux aussi aux États-Unis. J'ai commencé à me prendre en photo. J'avais un compte Ask.
Ah ouais.
Si tu te souviens de ce réseau.
C'est vrai. Tu m'avais dit. Ouais. Que tu t'étais fait un nom sur Ask en fait.
Exactement. Donc le pseudo juste inaccessible, j'ai lancé sur Ask justement avec cette idée de toute façon, je suis inaccessible. Je ne suis plus là. Je ne suis plus en France. Je suis loin de vous et je vais vous montrer que. Moi aussi, je suis cool, quoi.
Ouais.
C'était l'idée de base, elle n'était pas forcément très saine. Et puis, je me faisais vachement insulter quand même dessus, parce que du coup, les gens de mon collège me voyaient dessus et m'envoyaient. C'était le truc où tu envoyais des questions en anonyme.
Bah oui, en plus, malheureusement, le pouvoir de l'anonymat.
Donc harcèlement de fou.
Et je crois que Ask FM a été shut down parce qu'il y a eu des suicides, en fait.
Oui, il y a eu des suicides, ouais. Mais c'était un réseau social hyper, hyper malsain, hyper pervers et tout. Et en fait, bizarrement, va savoir pourquoi, à travers l'écran, j'arrivais grave à répondre aux gens, alors qu'en face, genre quand je me faisais dans la cour du collège, j'avais pas mal de filles des fois qui se mettaient autour de moi, qui s'attroupaient, qui me balançaient des trucs dans la tête et tout. Je pleurais direct et j'arrivais pas du tout à répondre. Mmh. Et là, à travers l'écran, j'avais un espèce de pouvoir et un humour que j'avais jamais eu. Mmh. Et du coup, ben voilà, je me faisais traiter de plein de noms pas cool et pas gentils, qu'il faut jamais traiter les gens comme ça. Mais, et je répondais avec beaucoup de tact.
Ouais, ouais.
Et ça a fait marrer les gens.
Ouais.
Et du coup, ça a cartonné. Mmh. Et je crois, ouais, sur Ask, à la fin de mon année de troisième, je devais avoir 8000, 10000 abonnés, un truc comme ça.
Je savais même pas qu'il y avait des abonnés sur Ask. Enfin, bref,
ouais, ouais.
Ouais, une autre époque.
C'était ouais. Vraiment une autre époque, truc de fou. Et du coup, je reviens de ce séjour aux États-Unis avec ce nouveau réseau social et tout, machin. Mes parents commencent à capter que je suis un peu en train de dériver. Donc, on me supprime mon téléphone portable dans toute mon année de troisième.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Ouais. Mon père me dit, c'est n'importe quoi, t'as pas du tout l'âge de faire ça, d'être sur les réseaux, c'est machin. Donc tous les soirs, pendant un an, je vais en fait piquer un téléphone qui est caché dans la salle de bain. C'est un téléphone que ma mère utilise pour mettre de la musique dans la salle de bain, un vieil iPhone 3. Et je vais en fait continuer à faire des trucs sur Ask et Instagram via ce téléphone pourri, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ah bah que c'est marrant, on essaie de se démerder comme on peut. C'était tes débuts de créatrice de contenu.
Exactement, les tout débuts et en secret total. Ouais. Donc on arrive fin troisième, là il faut le choix du lycée. Donc j'avais le choix soit d'aller dans mon lycée de secteur pour faire un double bac en allemand, parce que moi j'ai toujours fait des langues beaucoup et donc allemand beaucoup au collège. Soit je pouvais partir en section internationale pour apprendre, enfin du coup faire un double bac en anglais. Donc c'était une filière qui était un peu plus sélective et du coup qui me permettait aussi de me casser des gens avec qui j'étais au collège. Mmh. Et justement, je voulais vraiment... tout ce que j'ai souhaité le plus pendant mon année de troisième, c'était de partir. Partir, quitter ces gens et recommencer de 0. Et j'ai eu de la chance, j'ai été prise dans cette section qui était quand même à 45 minutes de chez moi en transport. Donc il y avait tout un nouvel enjeu, de nouvelles choses. Et là, je me suis totalement... 100% épanouie, je suis arrivée, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup voyagé pendant leur jeunesse aussi, beaucoup de personnes avec des familles bilingues, des personnes qui avaient soit des parents hollandais, australiens, internationaux de fou, et du coup une ouverture d'esprit incroyable, et donc ça m'a grave libérée, et à partir de là, ouais, sur Instagram, je commençais à faire de la photo. Donc en tant que petite minette blonde, toute mignonnette du lycée, quoi. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. Et voilà. Mmh. Ça, c'est le lycée. Ça s'est hyper bien passé.
Et tu penses que c'est parce que t'es arrivée en te disant « à partir de maintenant, je suis moi-même » ou t'avais encore ce truc de « ok, faut que je joue un rôle » et t'as essayé d'être la personne que tu voulais être.
Je pense que j'ai plus essayé d'être la personne que je voulais être. Et je me suis dit, là, en fait, c'est ma chance de pouvoir être ce que je voudrais être, vraiment, pour le coup. D'être la meuf qui s'en fiche un peu, si j'ai envie de parler fort, je parle fort. À l'époque, je parlais pas mal de sexe, un peu, pour avoir... J'avais une image un peu qu'on m'avait créée au collège, j'avais envie de l'enlever, en fait. Mmh. Donc de devenir quelqu'un d'autre... Et j'ai rencontré en fait des nanas, donc un groupe de copines que j'ai toujours aujourd'hui, qui m'ont vachement aidée justement à prendre confiance dans la personne que je voulais être. Elles avaient eu la chance au collège d'avoir une classe déjà internationale, bien mixée et tout, avec des gens de partout. Et elles m'ont un peu inculqué le truc de... en fait, on s'en fout. C'est pas
ça qui
grave.
Te rend intéressante, tu peux détacher de l'étiquette qu'on t'a apposée.
C'est ça.
Ouais.
Ici, tu seras plus ça, et si t'as plus envie de l'être, t'es pas du tout obligé de l'être, et ces gens-là, si t'as plus envie de leur parler, tu peux ne plus leur parler, en fait. Il faut pas que tu te sentes mal de couper des liens avec certaines personnes, et ça, elles me l'ont fait grave réaliser. Du coup, c'est pour ça que j'ai passé mes 3 ans de lycée, des années de fou, quoi.
C'était où, ça? C'était à Montpellier?
Ouais, j'étais au lycée Jules Gued à Montpellier, RPZ.
S'il y a des gens qui connaissent, qui étaient peut-être...
Lycée international, ouais. qui est génial, parce que c'est un lycée, en fait, où tu peux faire des doubles bacs dans plein de langues.
Ouais.
Donc, en espagnol, en italien, en japonais, en chinois, il y a du portugais. Moi, j'avais portugais en LV3. Tout ça, c'est un super lycée, quoi.
Ouais. Et ça t'a pas donné envie ensuite, surtout que tu disais que t'avais quand même adoré cette expérience aux États-Unis, après le bac, tu te dis pas bon bah ça me correspond peut-être plus, j'ai ce double bac anglais, faisons-en quelque chose.
Ben je voulais j'ai tenté Sciences Po, le campus de Reims du coup qui est basé sur l'Amérique du Nord, ouais. Donc États-Unis tout ça. Bon, j'ai pas été prise. Et j'avais du coup j'ai intégré une double licence de droit franco-anglais à Toulouse. Mmh. Donc on restait un peu dans l'anglais quand même. Je devais partir au Pays de Galles à la base à Bangor. Je devais faire 2 ans à Toulouse et 2 ans au Pays de Galles. Il s'avère que j'ai fait 1 an et demi que je me suis cassée, mais oui, à la base, après les études, je me suis dit, il faut que je fasse un truc quand même en rapport avec l'anglais, parce que je maîtrise, donc,
ouais.
Donc voilà.
Et alors, 2 questions qui me viennent. Déjà, comment tu vis le fait d'être refusé à Sciences Po? Je sais pas hein, si c'était un truc que tu voulais absolument pas, mais je trouve ça important parfois, et j'en avais parlé, je crois, dans l'épisode avec Laetitia, si jamais vous l'avez pas écouté, et j'avais trouvé ça super, l'enseignement qu'elle partageait, en fait, c'était un peu que elle avait... Je crois qu'elle galérait vraiment énormément à trouver un stage où elle avait pas eu le master qu'elle voulait, et qu'en fait, on lui a proposé une super opportunité derrière, et qu'elle s'est dit, ok, tout arrive vraiment pour une raison. Et comme peut-être des personnes passent par là, surtout en cette période de Covid, tu vois, où moi je reçois pas mal de mails, de personnes qui trouvent pas d'alternance, de stage, de... Enfin, tu vois, leur dire, ok, là, t'as peut-être l'impression que c'est la merde, que les planètes s'alignent pas du tout, mais en fait, tu verras que c'est une expérience qui t'enrichira ou qui te renforcera pour la suite.
Ouais,
donc comment toi, coup, déjà, tu vis ça
Ouais, sur le coup, tu te dis pas du tout ça, quoi.
Ouais.
Moi, j'avais travaillé pour Sciences Po plus que je n'ai travaillé pour le bac. Mmh. J'étais dans un lycée, du coup, enfin, mon lycée était en convention d'éducation prioritaire, donc on pouvait zapper les écrits de Sciences Po. Donc, truc de fou.
Mmh.
Opportunité de dingue. Dans la section dans laquelle j'étais, il y avait 5 ou 6 meufs qui avaient été pris l'année d'avant pour intégrer Sciences Po. Donc, qui avaient réussi toutes les étapes et tout le concours et tout. Donc, c'était vraiment la suite logique. Moi, j'avais aucune autre option,
ouais,
que Sciences Po, j'ai tout misé là-dessus et donc je passe toutes les étapes préliminaires et tout, j'arrive à l'oral à Paris et là je me chie mais monumentalement quoi, on est sur un... J'avais jamais été aussi peu à l'aise à l'oral alors que d'habitude...
Ouais, on l'entend là, tu l'es plutôt quoi. Ouais.
Je suis plutôt à l'aise et tout, j'avais fait peut-être... En fait je crois que je m'étais surentraînée, trop entraînée,
ouais.
Et du coup le moindre truc qui venait changer la préparation que j'avais dans ma tête,
ouais,
m'a déstabilisée. Et du coup, là, ouais, la première question que j'avais pas préparée, je suis tombée comme ça et ils l'ont captée en face. Et,
ouais,
et aujourd'hui, avec du recul, ouais, je me dis oui, c'est justifié.
Mm.
Mais quand tu sors du truc, tu sais que t'as foiré, là t'as envie de...
Enfin, c'est dur. Non mais attends, ça c'est une super belle leçon. Est-ce que t'as des conseils pour... justement pas ruminer un truc, moi je sais que je suis la pro du j'aurais dû. Et c'est hyper néfaste, ma sœur Camille elle me le fait toujours remarquer, elle me dit mais en fait arrête, enfin move on, tu vois, je me rappelle on m'a volé mon téléphone il y a 2 ans quand j'allais faire un raid solidaire en Islande et on n'avait pas voulu prendre le taxi pour aller à l'aéroport, enfin je n'avais pas voulu, j'ai dit à Camille non c'est bon on y va en RERB, on m'arrache mon téléphone, tu vois, et j'ai chialé, j'ai ruminé, j'en ai parlé pendant 3 jours, tu vois. Et Camille, elle était là, mais je comprends pas en fait. Enfin, c'est bon, remets-toi. Mais moi, j'ai un truc de vraiment, tu vois, je vais me dire si jamais on avait eu celui d'avant, parce qu'en plus, celui d'avant, on aurait pu l'avoir, mais on était dit non, vas-y, c'est bon, on en avance, on court pas. Enfin, bref, là, je m'étale, on s'en fout, mais juste, toi, t'as dû avoir un énorme truc comme ça qui est quand même, ouais, vachement plus important dans le sens où c'était un peu. T'as une chance, t'en as pas 3000. Voilà, comment tu te remets de ça après et tu te morfonds pas en fait, tu te remets pas en question, tu dis pas que t'es une merde, enfin tu vois, parce qu'il y a, quand c'est un truc qui est aussi important pour toi, c'est facile de se censurer,
ouais,
alors
clair,
que c'est pas parce qu'on a eu une difficulté, un obstacle, un échec entre gros guillemets, que ça fait de nous un échec, il y a une énorme différence.
Non, mais je crois qu'au fond, non mais moi je suis un peu comme toi, enfin je suis pas vraiment dans le truc en mode j'aurais pu faire ça, machin, mais j'ai toujours cette espèce d'espoir... limite, enfin, stupide, tu vois, de me dire, oh, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être que... et du coup, je pense que même en sortant du truc, j'étais très vénère, je savais que j'avais raté, je me disais, on sait jamais. Mmh. Franchement, on sait jamais, et je me suis pas inscrite dans les trucs APB, là, enfin, avant d'avoir les résultats de Sciences Po, parce que toujours... mais ça, c'est toute
c'était
ma vie.
C'était pas fermé, APB, à ce moment?
Non, en gros, c'était bien avant les oraux de Sciences Po.
D'accord.
Avant les
non, mais les résultats, c'est en juillet.
Ben ouais, mais j'avais... en gros, j'avais pas validé mes
ah oui, d'accord, ok.
Avant, je les avais mis, mais pas validés. Enfin, un truc comme ça. Et j'étais toujours... Enfin, ouais, je nourris toujours des espoirs en moi très, très forts.
Mm.
Pour jamais être déçue. En fait, au final, je suis jamais vraiment déçue parce que... Je sais pas comment expliquer.
C'est marrant, ouais, parce que moi, j'ai le truc inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'en sortant de l'oral, je savais pas du tout me prononcer si j'avais été entre guillemets bonne ou pas. Il y avait une question hyper dure qu'on m'avait posée, auquel j'avais du mal à répondre. Et du coup, je m'étais dit, OK, c'est fin. Je me disais un peu, c'est mort. Et en fait, j'ai préféré me dire que je l'avais pas. Ouais. Parce que comme ça, je me disais, au pire, tu peux être que contente. Quand tu l'auras pas, tu seras forcément déçue, mais tu t'y étais préparée. Alors que si tu l'as, c'est genre... Tu
ouais, vois, moi je me dis pas que je l'ai, mais je me dis on sait jamais. Et j'aime bien le on sait jamais,
En plus, c'est vrai quoi.
Je le pratique, ouais. Tu vois, je le pratique au quotidien, vraiment, on sait jamais en fait. On sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, voilà, le fait est que ça n'est pas arrivé. Mmh. S'il y avait pas mon nom sur cette liste dans le lycée, tant pis, c'est pas grave. J'étais quand même, enfin, je pense que j'ai pleuré. De mon souvenir, j'ai dû pleurer. J'étais un peu deg. Et en fait, direct après, du coup, j'ai validé mes vœux là sur l'autre truc, et j'ai eu direct après, peut-être 2 jours après, la confirmation du double diplôme de droit à Bangor, enfin à Toulouse / Pays de Galles. Et ça a été quand même une petite revanche en me disant bon, j'ai pas été prise à Sciences Po, mais j'avais quand même ce truc un peu sélectif, un peu parce que nous, on nous a beaucoup mis dans la tête dans la section où j'étais au lycée qu'il fallait aller dans les trucs sélectifs.
C'est fou, hein.
C'est dingue. Ouais.
L'élitisme à la française. Ouais. Enfin, en fait, je trouve ça hyper dommage parce que c'est une hiérarchie qui n'a pas forcément de sens, qui est arbitraire.
C'est ça.
Tu vois, c'est à quel moment le fait d'avoir un truc académique un peu plus prestigieux fait que tu vaux plus que quelqu'un, encore une fois, qui est hyper manuel, qui est un artisan de malade. Et je trouve ça cool qu'aujourd'hui, mine de rien, on s'en rend quand même de plus en plus compte qu'il y a des gens qui ont des parcours incroyables sans forcément avoir fait d'études. Et j'espère que ça rebat un peu les cartes. Je ne m'en rends pas compte, tu vois. Ce serait intéressant peut-être d'interroger des jeunes là, qui passent le bac pour savoir, à mon avis, c'est quand même pas parti cet élitisme.
Où ils sont orientés le plus.
Mais ouais. Est-ce qu'ils ont encore la pression que nous on avait? Parce que nous, on avait vraiment... pas d'autres vraiment d'exemples. Je sais que j'avais par exemple le père d'une amie qui avait un très haut poste dans une boîte qui avait pas le bac ou qui avait genre le bac, mais c'est tout.
Ouais.
Et mes parents rabâchaient, oui, mais c'était une autre époque.
Ouais,
donc
ça.
Tu vois, nous, les années 90, on a. Enfin, toi, t'es 2000 plutôt ?
99.
99, donc non, on appartient aux années 90. aux années 90, il y avait un peu ce truc de non, en fait, vous, c'est les études ou rien, tu vois.
C'est ça.
Et j'ai l'impression que ça commence à changer.
Ben, j'espère. En fait, il faudrait aussi des études qui allient beaucoup plus le professionnalisme à l'intérieur. Quoi.
C'est vrai.
Parce que soit tu pars à la fac et alors là, tu bouffes du livre pendant 7 ans, soit tu pars en école et là, tu vas faire des stages pendant 4 ans.
Mm.
Et en fait, l'entre-deux, bah, y en a pas trop. J'en parlais hier avec une amie qui est en master de droit. Et je lui dis, du coup, t'as un stage cette année et tout. Elle me dit non. Et les facs, elles sont limite réticentes à nous donner des conventions. Enfin, c'est pas du tout encouragé dans le système universitaire de faire des stages.
Ah ouais.
Ben ouais.
C'est tellement dommage parce qu'en fait, tu peux pas te rendre compte si ça te plaît ou pas, quoi.
C'est ça. Et à l'inverse, quand je suis arrivée, du coup, parce que moi, j'ai fait un peu des deux. Du coup, après, je suis partie en école de communication, donc à Lyon.
Ouais. Alors, juste comment tu décides d'arrêter, parce que ça n'a pas été une décision facile aussi.
C'est pas du tout facile. Et encore une fois, on est sur un craquage, un petit pétage de plomb. Je suis à la BU en train de réviser pour mon dernier partiel de l'année et je me rends compte en fait que bon, je kiffe, j'adore la matière que je suis en train d'étudier. J'aime beaucoup ce qui se passe dans ma vie, j'aime beaucoup, je suis à Toulouse, je kiffe Toulouse, je m'éclate, c'est trop bien. Il y a un truc qui me manque de fou, mais vraiment de fou. Et je crois que c'est les relations humaines.
Mmh.
Et je m'en rends compte en me réalisant que je fais du 8h-18h à la BU, que j'ai un copain qui vient avec moi à la BU tous les jours, qu'on se boit peut-être 7 cafés dans la journée, c'est tout. On sort, on se bourre la gueule, on rentre chez nous et on réétudie. Et c'est un cercle, et il me manquait vraiment un but, quoi. Qu'est-ce que j'allais faire au Pays de Galles, à Bangor, sous la pluie Enfin, je me voyais pas du tout et... Les gens avec qui j'étais aussi dans ma classe, du coup, c'était des gens qui étaient persuadés aussi d'être une certaine élite, comme ils avaient été sélectionnés. Donc, il y en a certains avec qui j'avais pas du tout réussi à créer du lien, voire je me sentais un peu rabaissée. Des fois, dans les propos que je pouvais tenir, très brut de décoffrage et tout, eux, ils étaient un petit peu plus propres, un petit peu plus élite. Et je trouvais pas ma place.
Ouais.
Et du coup, on est là, à la BU. Je scrolle sur Facebook, je tombe sur une pub pour une école de communication et de publicité. Je clique, je regarde le truc, je me dis, mais c'est super, c'est génial, c'est à Lyon. Lyon, c'est une grande ville, ça peut être très cool. J'appelle ma mère, je lui dis, écoute, je pense que j'ai envie d'arrêter le droit. Je finis l'année. J'ai très bien fini mon année. Elle me dit, bon, bah ok, finis ton année, machin. Nous, on a mis de l'argent de côté de toute façon pour vos études. Là, pour le moment, toi, ben,
la fac, c'était...
tu ne nous coûtes rien, quoi. Donc, si tu veux, oui, on peut prendre l'école et tout. Donc, je passe les concours pour cette école dans le but de rentrer en première année, de recommencer à zéro, etc. Et à l'oral de cette école, j'explique un peu aux examinateurs que j'ai un petit compte Instagram, que je sais un petit peu, j'ai déjà été contactée par des marques, je sais ce que c'est les partenariats, les collaborations. Je connais l'algorithme d'Insta et des réseaux sociaux. Et ils me disent, bon, bah, en fait, nous, avec ce que tu nous dis là, on pense que tu as des bases solides en com, donc tu peux rentrer directement en deuxième année. Et là, c'est une petite victoire, un petit succès. Tu dis, bah, trop cool. Je loupe pas d'année, je retape pas une première année et je re-rentre dans le jus tout de suite, quoi. Et je suis rentrée en septembre 2018.
Ouais.
À Sup de Pub à Lyon.
Ok.
Voilà.
Et là, ça t'a beaucoup plus plu tu t'es plus sentie à ta place?
Je me suis beaucoup plus sentie à ma place, ça c'est sûr et certain.
Ouais.
Avec du coup que des grandes gueules, que des gens justement qui avaient des choses à dire, beaucoup de choses à dire, des choses à montrer, des gens très créatifs, énormément de créativité. En gros, il y avait deux filières. T'avais une filière de stratégie et une filière de créatif. Et donc sur certaines semaines en cours, les strates et les créas travailler ensemble comme dans une agence de pub en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et là, enfin, c'était incroyable.
Ouais.
Moi, j'étais en stratégie publicitaire.
Ouais.
Et je pouvais en fait mettre mes idées sur le papier, dire à une nana, ben tiens, regarde, j'aimerais trop qu'on fasse ça. Et elle te fait un truc de fou, enfin, avec du InDesign, du Photoshop, des trucs magnifiques. On a fait des super belles campagnes fictives. Enfin, moi, la pub, ça me faisait trop kiffer, quoi. Mmh. La conception, la rédaction de. Et ouais, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, à côté, je développais de plus en plus aussi Insta.
Mm.
Et ouais, non, j'ai adoré. C'était
ouais,
top.
Non, mais comme quoi, tu vois, parfois, on trouve pas sa place dès le début.
C'est ça.
Et il faut pas se battre pour ça, quoi. Alors que je pense qu'on le vit vraiment comme un échec, mais en fait, il faut juste se dire, bon, bah ok, j'ai testé ça. Parfois, je dis souvent, si on ne trouve pas sa passion, genre si c'est pas une évidence, bah, faut procéder par élimination, quoi.
Ouais, c'est
t'essayes, tu arrêtes. Bon, alors parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, je pense que bah, les stages le permettent, c'est sûr. Mais même si vous êtes dans une filière et que vous savez qu'il y a un autre domaine qui vous intéresse plus, enfin, essayez, enfin, à un moment,
ça coûte rien.
C'est ça, on a le temps, tu vois. Parfois, on a un peu l'impression qu'il y a une compétition
de études à 25 ans.
Ouais, c'est ça, faut. Alors, bon, l'idéal, c'est si jamais forcément vous avez besoin de faire un peu d'argent, de pouvoir travailler à côté, mais de mémoire, toi, tu travaillais à côté aussi,
ouais,
non?
Ouais, moi, j'ai toujours travaillé à côté depuis mes 15-16 ans.
Ouais.
J'ai le BAFA, donc j'ai beaucoup travaillé en village vacances, colonie de vacances, club vacances, camping. Tous ces trucs-là, beaucoup. Et donc ça, c'était l'été surtout, mais ça me permettait de mettre de côté pour la suite de l'année. Après, j'ai fait l'écolo aussi, les vacances scolaires.
Ouais.
Ouais, non, j'ai toujours un petit peu bossé quand même.
Et t'en retires quoi de ces expériences, surtout que ça devait être quand même assez détonnant par rapport au milieu universitaire, académique où t'étais. Est-ce que vu que t'avais beaucoup voyagé, pour toi, au final, c'était un peu la continuité de ça ou...
Ouais, moi, j'ai toujours été habituée petite à être baladée aussi en camping, en club et tout. Donc, ça a toujours été, même aujourd'hui, tu me dis, ouais, tu veux partir travailler 6 mois au Club Med, je te dis oui.
Ok.
C'est des rythmes hyper intenses.
Ouais.
Mais... Enfin, moi, je trouve ça fou. Moi, j'aime trop être dans le truc de la saison, être avec tout plein de gens de ton âge, un peu plus vieux, un peu plus jeune, d'avoir de la relation client, de la communication. Ouais, non, c'est toujours pareil. Hein. On reste toujours sur l'humain. Et moi, ça a toujours été ça. Et j'aime les études pour apprendre les humains. Bon, oui, t'as de la psycho, ok. Mais pour être avec des humains...
Il y a rien de mieux que le terrain, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que tu te dis quand tu termines tes études. Tu te dis quoi? Tu sais où tu veux aller? Tu patouilles un peu?
Je sais pas si elles sont terminées, mais je sais même. Enfin, mes études, elles se sont arrêtées un peu malgré moi. J'ai pas du tout choisi de terminer mes études.
On choisit toujours un peu.
Oui, un petit peu, mais j'ai pas vraiment choisi. Du coup, je suis partie 6 mois en Erasmus à Vienne, en Autriche.
Ouais.
Là, je suis encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais.
Plus pour longtemps, mais j'y suis encore. Et du coup, je pars 6 mois avec l'idée d'apprendre l'allemand. Déjà, à l'école, on me dit, On me dit que c'est pas forcément une bonne idée de partir parce que tu pourrais faire ton stage de fin de troisième année sur 6 mois, comme tous tes camarades, plutôt que de partir apprendre une langue qui ne sert à rien, quoi. On m'a un peu dit ça. J'ai dit, bah non, moi, l'allemand, ça fait quand même longtemps que j'ai envie de le perfectionner, de le parler vraiment très bien. Et j'ai vraiment envie de partir. Et c'est vrai qu'on m'a pas forcément encouragée, quoi.
Ouais.
Et donc, je pars en Autriche. Je m'inscris dans des cours qui n'ont rien à voir avec mes cours. Enfin, j'ai pris des cours qui avaient à voir. Et j'ai pris, je crois, peut-être 15 crédits en plus de ce que je devais faire de base en journalisme.
Ouais.
Pour tâter le truc. Je me suis dit, trop cool. J'aimerais trop faire un master en journalisme. Ça doit être trop génial. Je pense que ça peut me correspondre et tout. Donc, je prends des cours sur ça pendant 6 mois. Je valide mon année, du coup, bah, en ligne, Covid, confinement.
Ouais.
Tout ça en Autriche, ouais. Avec du coup du journalisme, de la com, tout ça mélangé. Je postule à des masters. Je postule à 5 masters. Donc certains en fac de com, fac de journalisme, Sciences Po. Des facs, beaucoup de masters de communication finalement, communication globale ou communication publicitaire et tout, mais à l'université. Je postule dans aucune école privée. Je me dis, j'arrête l'école privée, c'est bon, je peux retourner dans le système universitaire, j'ai un peu travaillé. Maintenant, j'aimerais bien retourner au bouquin, justement. Et là, on me dit, bah non, c'est pas... Enfin, en fait, le système universitaire, on a un level qui est beaucoup plus élevé. Enfin, moi, de ce que j'entends, c'est ça, c'est... on est beaucoup plus chaud que les gens en école. Là, ça fait 2 ans que vous n'avez pas touché un livre, vous ne pourrez pas rentrer dans un master comme ça, quoi. Donc, les 5 masters où je postule, les 5, on me dit ciao. On me dit, bah non, pas de master. Donc là, j'arrête mes études.
Ah ouais, c'est vrai. je me souviens maintenant que tu m'as dit ça.
C'est ça.
Bah, un peu comme Laetitia qui est venue sur le podcast aussi. Et tu le revis aussi comme un coup dur ou
bah ouais,
là, t'as plus de... Tu te dis pas, bon, ça m'est arrivé une fois,
non,
je vais faire le truc de mon côté. Surtout que t'avais déjà commencé les réseaux à cette époque-là.
Ouais.
Vu que t'avais commencé pendant le confinement.
C'est ça. Bah, confinement, j'ai commencé TikTok.
Ouais.
Et Instagram. Instagram, c'est vraiment... J'ai plusieurs vies sur Instagram. Il y avait la vie au lycée, il y a eu la vie à l'école, il y a eu la vie après TikTok. Mais... la vie là maintenant quoi, mais ouais, du coup j'avais déjà un peu commencé ça, mais pas du tout, enfin je me suis jamais vue, enfin j'ai commencé à travailler en tant que créatrice de contenu que depuis août, donc j'étais pas du tout quoi,
ouais.
Moi je voulais faire des études, hein. C'est j'adore l'école, j'ai toujours kiffé ça, et là je me reprends dans la tronche que non, là tu vas arrêter,
c'est
maintenant,
c'est dur. Et puis en plus, ce que je trouve dur en fait parfois, c'est qu'il n'y a pas d'explication,
zéro explication.
Tu vois, c'est que toi tu te dis ça. Bon, tu vois, il y a sûrement une part de vrai, mais je trouve que ça... Après, ils peuvent peut-être pas le faire pour tout le monde, tu vois, mais ça aiderait d'avoir, hein, bah, en fait...
ouais, un retour.
Un retour. Nous, on cherche des profils plus ceci, plus cela. Enfin, là, t'es juste... Ça fait très rejet, en fait.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et d'un autre côté, je me suis dit... J'étais en Autriche, le confinement venait de finir, et je me suis dit, bon... là, en fait, si la France veut pas de moi, enfin, ça veut dire qu'en gros, je l'ai un peu pris comme ça, genre la France veut pas de moi, donc je vais rester en Autriche et je retournerai pas en France tant que j'aurai pas une raison d'y rentrer, quoi. Et du coup, j'ai trouvé un petit job en serveuse dans un hôtel, bar, restaurant, chicha, relais colis, enfin un bordel, vraiment un truc de... Voilà, un truc assez fou, avec du coup tenu par des Libanais, donc 4 mecs libanais qui me faisaient travailler en allemand, en arabe, en français, en anglais, dans toutes les langues. Enfin,
au moins, tu vois, t'as perfectionné tes langues.
La grosse expérience bien concrète, bien dure. Parce que la restauration, c'est vraiment pas facile, j'en avais jamais fait. Et je me retrouve là, du coup, à faire du service pendant tout un été, et à faire plus que du service, faire beaucoup, beaucoup de choses dans cet hôtel. Et voilà. Et du coup, reconfinement en octobre. Donc là, les bars et restaurants referment.
Ouais.
Et moi, je dis à mon patron, je dis, bon, bah voilà, là, depuis cet été, moi, j'ai beaucoup travaillé avec vous, j'aimerais bien rentrer un petit peu pour les fêtes dans ma famille. Il me dit, OK, on signe une petite rupture conventionnelle et tout. Et donc, j'arrête de travailler. Je rentre dans ma famille 1 mois. Donc, pendant 1 mois, j'ai plus de boulot. Mais j'ai toujours mon appart en Autriche. Et après les fêtes, du coup, je reviens en Autriche. Ma mère me met un peu la pression en mode, franchement, tu vas pas rentrer en Autriche pour rien faire. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, je valide mon B2 en allemand. Je travaille un petit peu, je passe les tests d'allemand et je trouve un autre job. Je trouve un job en stage dans une start-up qui s'appelle Inoko et qui développe, en gros, c'est comme Yuka, mais qui te calcule ton impact carbone sur les produits que tu achètes. Et donc moi là, je rentre là-dedans, start-up, monde de start-up, je connaissais pas du tout, où en fait t'es pris à partie dans le process de A à Z. Vraiment, c'est donc très très belle expérience encore une fois. Et en même temps, derrière, il y a les réseaux sociaux qui continuent à prendre de la place, prendre de la place, prendre de la place. Et c'est pour ça que je les ai quittés en août.
Ouais.
Pour Instagram, pour TikTok, pour me mettre à fond là-dedans, quoi.
C'est hyper intéressant. On va venir à cette partie-là, plus création de contenu. Ce qui m'impressionne quand même, c'est un peu ta confiance, ou en tout cas ton... Enfin, tu vois, t'avais pas l'air particulièrement inquiète de quoi demain sera fait. Tu te dis quoi, en fait, quand au final, t'es refusé dans les masters, donc tu trouves ce job où tu fais un peu de tout. Est-ce que tu penses à ton avenir, tu penses à ton futur? Tu sais, il y a tellement ce truc de oh, quelle va être ma carrière, quel va être mon avenir. Tu penses pas du tout long terme, en fait, tu te dis bon, de toute façon, je trouverai toujours un truc et on verra là où je me plais, quoi.
J'ai toujours été très court terme, au jour le jour, voire à l'heure par heure, hein, parce que je suis très anxieuse. Donc en fait, si je commence à penser à après, là c'est fini.
C'est marrant, t'as pas du tout l'air anxieuse.
Ah ouais, bah pourtant, si tu vois l'état de mes pouces.
Ah oui,
de
c'est
mes
vrai,
ongles,
on s'est dit ça pour la table ronde qui sort très bientôt.
Oui.
Que tu disais, on évacue le stress comme on peut.
C'est ça. Non, non, je suis une grande anxieuse. Hein.
Okay.
Je fais des grosses crises d'angoisse et tout. Ouais.
Tu sais, j'en ai jamais parlé sur le podcast. Peut-être qu'on a parlé un peu de stress, d'angoisse et tout, mais de crise d'angoisse, de comment on gère l'anxiété au quotidien.
Ouais.
Je suis toujours preneuse d'explorer des sujets qui concernent en fait beaucoup de monde, de plus en plus. C'est quand même un peu un mal de société.
C'est mal de société de fou.
Est-ce que t'as réussi un peu à t'améliorer entre guillemets avec le
pas
temps
du tout.
Non, t'as zéro
non,
solution.
Non,
all right.
Voilà. Je suis désolée.
On va revenir à tes études. non, on peut. Ouais, non. Ou ce qui marche pas peut-être.
Justement, ce qui marche pas, c'est de se dire et si j'avais fait ça, et si je pouvais faire ça.
Ouais, ça c'est clair.
Et peut-être que. Mais alors, comment on va faire si nanani nanana. Toutes les peurs là que t'as dans ta tête qui reviennent constamment. En fait, plus t'y penses, plus elles deviennent réelles et du coup. Plus elles te font stresser, quoi. Et donc, justement, j'essaie d'anticiper un maximum pour justement le moins possible me poser de questions sur ce qui va se passer plus tard.
Ouais.
C'est très grave, hein, mais...
En fait, c'est vrai qu'on a vraiment un problème avec l'incertitude aujourd'hui, tu vois. Il y a un côté où, je sais pas, vu que les réseaux sociaux sont mis présents, vu qu'il y a tellement de projections sur l'avenir, que quand ça se passe pas... comme tu pensais que ça allait se passer...
C'est dur, c'est un coup dur.
C'est super dur.
Et justement, si t'as pas trop d'attente et que tu te laisses un peu... Moi, j'aime bien ce truc de suivre le courant.
Ouais.
Voilà, je suis un peu comme ça. Je suis le courant, je suis le flow. Tant que ça va, ça va. Et justement, faut pas trop se poser de questions.
Pense pas trop à quand ça n'ira pas.
Non, voilà, parce
ça
que sinon,
pas
c'est là que tu
ça
finis sur ton canapé comme ça, à tronger les ongles.
Ouais,
en mode, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis trop dans le mal.
Non, mais ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi, que tu vois, que ça concerne aujourd'hui autant de gens. Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 3 personnes sur 4 qui sont anxieuses à des degrés différents, tu vois. Mais pendant longtemps, moi, je pensais que je l'étais pas et en fait, je suis grave. Enfin, j'en avais pas forcément conscience. Ça se manifeste par plein de moyens différents, mais perso, j'ai l'impression que. Enfin, mon expérience un peu dans le domaine, une des seules vraies solutions, c'est le ralentir, quoi. C'est la méditation, c'est le yoga ou les pratiques plus chill. Et je trouve que l'environnement joue vachement, tu vois.
Ouais, je me suis pas encore ouverte à ça, ni yoga, ni méditation, alors que pourtant, tu vois, ma mère, elle est grave là-dedans. Elle fait du yoga depuis des années, de la méditation aussi. J'ai jamais. Enfin, moi, je suis un peu hyper active et.
Ah ouais. T'inquiète, je connais.
J'ai pas encore réussi à mettre le pied dedans. J'ai un peu peur.
C'est que t'en as
justement...
pas encore totalement besoin.
Moi,
je peux te dire, personne, généralement, tombe dans l'invitation par oh, tiens, par curiosité. C'est genre, t'en as besoin, quoi.
C'est ça. Je pense que j'en ai pas. Là, je suis bien dans le feu.
Ouais.
J'aime bien être dans le feu.
Ouais, c'est ça. Ça te va pour l'instant, quoi.
Pour le moment, ça me booste, ça me tire, ça m'excite. Et pour le moment, j'ai pas trop envie de ralentir. Mais ouais, franchement, il va falloir un moment que tout le monde s'y mette à se calmer, à se détendre, à prendre du temps pour soi, à arrêter de donner tout le temps.
Et c'est un vrai problème avec les réseaux sociaux, tu vois. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais. C'est du non-stop, c'est un peu, t'as un peu le côté si tu publies pas, t'as l'impression que du coup il y a des gens qui vont le faire plus ou qu'on va t'oublier ou que en fait tu peux tellement toujours donner plus que c'est super difficile parfois de se dire en fait c'est pas forcément la course au plus. Comment tu vis ça toi ces deux dernières années?
Franchement, depuis c'est dur hein, parce que j'ai eu plusieurs vies sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette vie de petite meuf jolie à Montpellier qui faisait des photos en photoshooting et tout machin. Donc les gens me suivaient parce que j'étais mignonne. Je parlais pas, hein, je racontais pas ma vie. Voilà, je n'étais.
C'était purement physique.
Physique, qu'on le dise, bah, un peu comme toi quand t'as commencé le fitness, c'était un peu. Enfin, quand t'as fait ton compte.
Ah bah alors
fitness,
non, ben,
alimentation et tout, non, c'était
je,
pas.
Je me permets de dire que ouais. Non, parce que moi c'était dès le début vachement explicatif.
Partagé.
Ouais, mais moi c'était des recettes, c'était ouais, voilà. Des explications d'entraînement. Donc, enfin bon, moi j'ai un gros manque de confiance en moi de.
Mais quand
de
même, mon enfance, dans une
donc,
matrix.
Je me suis jamais dit, oh, je suis jolie, je marche sur les réseaux sociaux, vraiment pas.
Mais dans une matrix un peu physique, un peu.
Bah alors forcément, généralement tu commences le fitness pour le physique.
Ouais.
Donc c'est sûr que je cherchais la confiance en moi par là. Il s'avère que je me suis rendu compte que c'est pas là où je la trouverais. Mais donc ça a été un apprentissage. Mais oui, c'est sûr. Mais par contre, moi sur les réseaux, non, c'était vraiment. Putain, je suis plein de meufs qui partagent mes centres d'intérêt. J'ai grave envie d'interagir avec elles.
Okay.
Voilà, c'est, ma réflexion c'était de... ça quoi. mais tu vois, c'est intéressant, on arrive tous par différents moyens
ouais,
hein, sur les réseaux.
C'est fou, bah, moi il y avait vraiment ce truc de Ask où je faisais marrer et tout, mais je mettais aussi des photos de moi déjà sur Ask. Et du coup, j'ai fait le compte Instagram avec ben, un peu les mêmes photos, le même style de photos. Je savais ce qui plaisait, je savais ce qui marchait, je savais ce qui faisait cliquer. À l'époque, c'était l'époque de Badies, des trucs comme ça.
C'est
quoi.
Trop drôle.
C'est un peu la honte, ouais. Mais...
Il n'y a pas de jugement.
Mais à la base de la base, mon compte Insta, c'était ça. C'était moi, je suis jolie, je me plais, j'ai confiance en moi et c'est tout.
Ouais.
Voilà. Et donc, après, le truc, c'est que ça, c'est pas forcément... c'est pas périn, quoi. Ça... continue à faire un peu ça pendant mes études. J'arrive à Lyon. Et à Lyon, j'ai eu une petite période où ça allait pas trop bien. Et j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris 15 à 20 kilos en 2-3 mois, un truc comme ça. Et du coup, beaucoup moins confiance en moi. Beaucoup moins jolie, beaucoup moins...
dans les yeux de la société.
De jolie sur Instagram, si tu veux. En gros, je me trouvais plus... Enfin, les photos que je faisais... C'était plus du tout les mêmes. Les gens ont capté. J'essayais de me justifier. Stupide. Très mauvaise idée. Du coup, j'ai commencé à parler un petit peu plus. Je me suis rendu compte que les gens, quand je parlais, ils se désabonnaient.
Dur.
Donc, très dur.
Très dur. Franchement, quand tu te rends compte que tu n'es qu'une image et que ta personne plaît moins, entre guillemets, ça c'est vraiment la difficulté.
C'est ça, les gens qui étaient abonnés, ils s'en foutaient de ce que j'avais à dire, de qui j'étais et tout. Enfin, franchement, rien à faire. Et je me suis grave perdue. Je me suis grave perdue pendant une année, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie même en général. J'étais un peu à l'ouest. Et j'ai découvert via toi, pendant un voyage à Berlin, le hashtag On veut du vrai. Et le mouvement body positive qui va derrière, que je ne connaissais pas du tout. Et là, je suis à Berlin, je vois ça, je me dis waouh. Truc de fou, truc de malade. C'est ça, c'est vrai, c'est ça en fait. On veut du vrai. C'est que moi en fait j'avais été fausse pendant très 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 longtemps. Quand j'ai essayé d'être vraie, je me suis rendu compte que ça marchait pas et je comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce que sur Instagram, il y avait pas trop de ça. Il y avait pas de vrai, il y avait pas de meuf qui raconte vraiment ce qu'elles vivent, qui se lèvent la tête dans le cul, qui montent leur corps au réveil, qui montent leur corps fatigué, qui montent leur tête, enfin, toutes ces choses-là, ça n'existait pas. Et j'ai vu ce hashtag, je me suis dit, mais oui, exactement, je veux, c'est ça, c'est moi, c'est exactement ce qui me parle. Et du coup, sur Instagram, je me suis lancée avec ce nouveau corps, et je me suis dit, vas-y, j'y vais, j'envoie la sauce, et je vais complètement changer le truc. Donc il y a plein de gens qui sont partis. Je suis passée, je pense, de... 20 000 personnes, à peut-être 13 000, un truc comme ça. Donc on redescendait quand même pas mal. Et après, j'ai changé, quoi. J'ai parlé à d'autres gens. J'ai parlé différemment et j'ai parlé avec ma voix et pas la voix de la meuf qui est pas bien dans sa peau et qui va pas bien.
Et qui essaye de faire semblant.
Et qui fait semblant. Vas-y, on va être un peu vrai. Donc ça a pas forcément pris autant qu'avant. Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est que c'est pas fait pour moi et que c'est pas moi et j'avais mes études à côté, il y a pas de souci, on va pas voilà.
Non mais c'est une
c'est
super
pas,
belle leçon.
C'est pas du tout un problème quoi.
Ouais, et c'est je pense le problème aujourd'hui de plus en plus de personnes veulent se lancer sur les réseaux sociaux et pour moi le problème c'est si on se lance et qu'on essaie de s'adapter uniquement à ce qui marche au détriment de ce dont on a vraiment envie. Et c'est marrant, moi j'en parlais avec une fille que je connais il y a quelques jours. Et même si moi je prêche ça, en fait, même moi, je me dis souvent.
Tu t'es lancée quand même.
Bah en fait, j'ai tellement changé de sujet, moi. Ouais. Alors je suis ravie, hein, les personnes qui nous qui m'écoutent, si vous êtes encore là, vous êtes des vrais pour le coup. Mais tu vois, même là, je commence à parler un peu plus de développement personnel, voire même de, tu vois, tout ce qui est spiritualité, méditation, yoga, parce que croyances, neurosciences, ça m'intéresse de plus en plus. Et c'est vrai que même moi, parfois, je m'autocensure en mode non, mais en fait, les gens me suivent pas pour ça. Et donc, il y a ce truc un peu de t'as envie d'apporter quand même ce que les gens attendent parce que t'as envie de leur faire plaisir. Et d'un autre côté, en fait, je me dis non, mais Louise, en fait, je fais ça pour toi aussi avant tout. Ouais. Et surtout que, enfin, moi, mon mantra, c'est d'aider les gens à prendre le pouvoir de leur vie. Donc, dans l'absolu, il y a plein de façons de le faire. C'est donc, pendant longtemps, ça a été par le corps. Après, ça a été plus par la réflexion, la déconstruction, le féminisme. Et c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément. Mais c'est vrai que personnellement, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. Tu vois, je m'en rends compte vraiment. Et donc, quand des sujets m'intéressent, j'ai besoin d'en parler, même si c'est pas
c'est normal.
L'étiquette entre guillemets qu'on nous a mise, quoi.
Moi, pour moi, c'est humain. On a plusieurs facettes de nos personnalités. On n'est pas juste le porte-parole de ça ou la meuf qui parle de ça. Ou... Enfin, c'est normal d'avoir plusieurs facettes. On est des êtres complexes.
Ouais.
Et ça, moi, je l'ai découvert. J'ai pris confiance sur ça avec TikTok.
Ouais.
Parce que du coup, sur Instagram, je me dis, bon, d'accord. Bon, du coup, si je peux pas être la meuf jolie, ben, je vais être la meuf qui parle un peu de comment elle va mieux et comment elle essaie d'accepter son corps, tu vois. Et on va s'arrêter là. Sauf que, en fait, moi, j'ai toujours aimé faire le clown, tu vois, des bêtises, des blagues, faire rire et tout. Et j'avais essayé de faire quelques vidéos sur Instagram. Bon, bah, les gens partaient, tu vois. Bon, ok, c'est pas.
Ouais.
C'est toujours pareil. J'ai tenté et à chaque fois, je me suis pris un peu des rejets, des refus mais j'ai pas perdu le truc à l'intérieur.
Ouais.
Je me suis juste dit, bon, si personne veut le voir, c'est pas le moment, je le montre pas maintenant, tant pis. Et là, TikTok arrive, confinement, en mai. Et je me dis, waouh, pouvoir faire des blagues. Je vais pouvoir faire nimp, en fait. Personne ne me connaît sur cette appli. Je suis personne. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Et justement, du coup, je me suis affranchie complètement du truc d'être dans une case, d'être influenceuse ci ou créatrice de contenu ça. J'étais Justine. Et j'étais plus Justine juste inaccessible. J'étais Justine très accessible.
Vas-y,
je vais parler au plus grand nombre. Je vais faire des blagues qui parlent à tout le monde. Avec des petites punchlines, des petits trucs sur lesquels tout le monde peut se reconnaître. Et ça a pris... Tout en gardant ce côté... ce truc de je m'assume, je suis une femme, je suis forte, je prends la parole. Et j'en ai rien à faire, quoi.
Et tu dirais que c'est ça, si tu vois, il y a des personnes qui aussi peut-être veulent tenter les réseaux sociaux ou on sent qu'ils ont des choses à dire, que c'est ça qui t'a le plus aidé, entre guillemets, à te faire une place et de parler de sujets auxquels les gens s'identifient.
Ouais.
D'être toi-même, est-ce que voilà, t'as quelques conseils à partager?
C'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut vraiment être 100% en accord avec soi, en fait. Il faut moi, ce que je suis dans la vie de tous les jours, le clown que je suis en groupe avec mes potes, c'est le même qu'il y a sur TikTok. Je fais les mêmes blagues de beauf pourri, c'est la même chose. Donc je pense que c'est ça, il faut réussir à, et c'est très très dur. C'est très très dur de montrer le vrai soi à travers un truc qui est super, super pas vrai en fait. Parce que c'est des réseaux sociaux, donc c'est une image, c'est un post qui est éphémère, qui dure pas, qui doit aller vite, qui doit parler vite, qui doit parler fort. Et c'est ça le plus dur, c'est de montrer qui on est vraiment à travers un truc qui est pas très vrai.
Mais tu y arrives déjà merveilleusement bien. Je le souligne.
Merci. J'essaye, franchement, j'essaye de plus en plus de montrer qui je suis. C'est compliqué.
Mais ça va apprendre à être vulnérable, en fait. Hein.
C'est ça. C'est ça.
J'ai quelques petites dernières questions pour toi. J'ai envie de te demander déjà, quel est le pire conseil que l'on t'ait donné?
Quel est le pire conseil qu'on m'ait donné? Je sais pas. De parler moins fort.
Ouais. Non, mais c'est sûr, en fait, c'est du coup de te renier, en fait.
Mais justement, c'est à l'oral de Sciences Po. À la fin de l'oral, on avait eu après l'oral, on avait eu un petit papier avec les commentaires du jury. Et le premier commentaire, c'était voix tonitruante. Donc qui équivaut au bruit du tonnerre.
J'ai jamais eu ça, moi.
Ouais. Et on me l'a répété plusieurs fois, tu vois, pendant mes études et tout, quand je prenais la parole pendant les oraux. J'avais des micros, je disais, mais je veux pas de micro parce que je vais vous casser les oreilles, en fait. Et ben, parle moins fort. Mais non, j'ai pas envie de parler moins fort, juste, mais enfin. Et voilà, ça, on me l'a dit plusieurs fois. Arrête de parler aussi fort, calme ta voix et tout, alors qu'aujourd'hui, justement.
C'est une force, quoi.
C'est une force. Et c'est pas grave.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
C'est pas du tout un problème. Donc, ça, ouais, je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de me taire, en fait.
Ouais.
Voilà. J'ai une prof un jour en cours qui m'a dit de fermer ma gueule directement.
On l'embrasse.
Voilà.
Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou le conseil que t'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné ou que j'ai réussi moi, enfin une qualité que j'ai réussi à développer et que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de monde, c'est de rire de soi tout le temps. C'est en fait, si vous riez de vous-même, c'est beaucoup moins facile pour les autres de rire de vous ou de se moquer de vous sur des choses sur lesquelles vous vous moquez déjà, en fait. Donc, moi, j'ai appris ça. Ouais. On se moquait beaucoup de moi. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont méprisé, qui ont rigolé de... Et oui, c'est vrai. Ouais, je fais des trucs bizarres et ouais, je suis pas... J'ai des tocs, j'ai des trucs, j'ai... C'est pas grave, on en rigole. Et je pense que rigoler de soi, c'est vraiment une manière de prendre confiance en soi, de s'assumer, de s'affirmer, qui est assez facile, au final. C'est peut-être le moyen même le plus facile, je pense, pour les personnes qui sont un peu extraverties et tout, de prendre confiance en soi.
Okay.
De rigoler de soi et de s'amuser, ouais. Franchement. Ouais.
Génial. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, ce que tu veux, un documentaire, qui t'a particulièrement marqué et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre que tu offres pas mal, ça peut être... un film qui t'a fait réfléchir.
J'ai beaucoup aimé L'homme qui voulait être heureux, de Gounel, je crois que c'est son nom. Et donc ça, c'est un livre qui permet de prendre du recul, vachement, sur qu'est-ce que c'est d'être heureux, d'être bien. Il est vachement bien, ce livre. Je l'ai fini très très vite et je l'ai passé très très vite à une copine en lui disant, bah tiens, ça, il faut vraiment que tu le lises. Et il y a un autre livre, justement, de développement personnel que j'aime énormément, c'est... Le développement impersonnel.
Je le connais pas du tout, ce livre, tiens.
De Julia de Funès.
Ok.
Incroyable. Justement, ça, c'est un peu controversé parce que ça démonte toutes les théories du développement personnel qui, au final, d'après elle, est assez impersonnel puisque c'est les mêmes
même
conseils pour tous.
Ouais.
Et comment tu peux donc adapter des conseils universaux à la personne. Et voilà. Et ça, ce livre, il est incroyable.
Ok, bah je le mettrai avec l'autre dans les notes du podcast. Ouais,
franchement, Julia de Funès, incroyable.
Et mes deux dernières questions. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, ce serait qui?
Franchement, ce serait trop cool que t'aies Tania.
Ah ouais, ok,
Tania
carrément.
Tania MQ+. Ouais. Elle a un super parcours aussi. Enfin, pareil, elle a fait pas mal de voyages, elle a beaucoup bougé, elle connaît beaucoup de monde. Et c'est une grande gueule.
Ouais, elle est super sympa.
Ouais.
Super, je garde en tête. Et puis la question signature du podcast que tu connais peut-être, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est... c'est prendre le pouvoir de soi. Et savoir, en fait, c'est essayer de trouver un chemin qui nous correspond, quel qu'il soit, et c'est pas grave de se tromper de chemin. Prendre le pouvoir de sa vie, ouais, c'est ça, c'est essayer, encore essayer, quitte à se casser la gueule. Mais écoutez, voilà, un mur, quand tu prends un mur, bon, t'as un bleu pendant 2-3 semaines et après... Après, il s'en va.
C'est comme neuf.
Voilà.
Génial. C'est super message de la fin, Justine. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, tu veux qu'on les redirige où?
On pouvait venir sur Instagram, donc sous le nom de Justine Accessible avec un seul C parce qu'il y a une faute d'orthographe, parce que je suis un clown de A à Z. Et sur TikTok, Justine Accessible avec 2 C. Et j'ai une mini chaîne YouTube qui vient de voir le jour. Vous n'êtes pas obligé de venir la voir, mais...
Mais si vous voulez, tout ça sera dans les notes du podcast.
Exactement.
Merci Justine,
merci
à très
toi.
Vite. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @justineaccessible et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous.
Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.